7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Philippe Lançon, vous êtes chroniqueur à Charlie Hebdo, journaliste à Libération et écrivain. Vous avez notamment publié Le Lambeau qui a obtenu le prix Femina en 2018. Et là, vous publiez aux éditions Les Échappées, chronique de l'homme d'avant, avant l'attentat. On y découvre beaucoup de textes superbes que vous avez écrits dans Charlie Hebdo et vous donnez une définition de la chronique. La chronique est la mise en avant du pas de côté. Mais tout d'abord, il n'y a pas de chronique politique dans ce livre à proprement parler. En revanche, nous avions eu une discussion sur Charlie Hebdo et vous m'aviez dit, voilà, je pense qu'Emmanuel Macron n'évoque pas Charlie Hebdo parce que Charlie est un journal de losers et qu'Emmanuel Macron ne croit pas aux losers.
Oui, on dit des choses. Il était, c'était une époque, je pense, où il était encore ce qu'on appelle un winner, si vous parlez de loser, enfin un gagnant, en tout cas perçu comme tel. Et puis, la roue tourne, vous voyez. Et comme dans les bons romans, les romans deviennent intéressants quand, parfois quand celui qui était dans la catégorie des gagnants passe dans celle des perdants, puisque c'est le moment où il commence peut-être à faire retour sur lui-même et sur ce qu'il est. Donc, et je pense que maintenant, je comprends. Moi, effectivement, je ne fais pas de politique au sens où, tout simplement parce que je me considère comme incompétent. Mais je regarde un moment comme celui-là qu'on vit depuis les Gilets jaunes en France comme un formidable basculement évidemment d'une situation générale, mais aussi d'un personnage. Et je suis toujours curieux, là plutôt comme chroniqueur, de voir ce que le personnage va devenir, c'est-à-dire le personnage Macron, comment il va réagir, qu'est-ce qu'il pense en ce moment, comment il vit ça, vers quoi il va. C'est pas de la grande politique, mais à titre romanesque, c'est ce qui m'intéresse.
Il vous intéresse plus qu'auparavant ?
Oui, parce que le vernis, les gagnants ne sont pas très intéressants. Voilà. Finalement, la littérature, ce que j'aime lire, elle est beaucoup faite avec les perdants. Elle est même faite souvent pour eux, pour raconter leur vie. Et c'est toujours intéressant quand un gagnant ou quelqu'un qui se croyait tel bascule dans une autre catégorie. Le basculement est intéressant.
C'est un peu le basculement, votre basculement que vous avez raconté dans Le Lambeau, le livre qui vous a valu le prix Femina. Et d'ailleurs, vous débutez ce recueil de chroniques, Philippe Lançon, en écrivant la phrase suivante. L'attentat du 7 janvier 2015 m'a épargné la crise de la cinquantaine.
Oui, bon, c'est une phrase, je ne sais pas si on peut dire ironique ou sarcastique, mais de fait, j'avais 50 ans et l'événement a évidemment considérablement modifié ma vie comme celle de mes compagnons de travail. Hein. Et je parle évidemment pas des morts là, mais des blessés et des survivants. Et donc, la vie d'après, c'est comme si on avait fait tapis d'une certaine façon. Et donc, ma vie a changé à tous les sens du terme. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est dans ce livre en particulier, c'était de comprendre, essayer de voir, d'explorer à quel point une écriture pouvait changer à partir de là. Est-ce que je n'en savais rien ? Je me suis posé la question simplement. Et quand Charlie m'a proposé de publier ses chroniques, donc on en a choisi une cinquantaine sur quand on en écrit une par semaine sur 15 ans, ça fait 500, 600 chroniques quoi. Et on a choisi des chroniques. J'ai laissé plutôt choisir par une jeune femme qui était éditrice et donc qui avait une dizaine d'années, 10 à 15 ans quand beaucoup de ses chroniques ont été écrites.
Pamela Grossi.
Voilà, Pamela. Et c'était intéressant parce qu'elle a fait des choix qui tirent effectivement ses chroniques vers le moins d'actualité possible et le plus de fiction possible.
Paloma, grossi,
voilà, Paloma, voilà. Et donc, voilà. Donc, et à partir de là, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais écrit. Déjà, je dis plutôt de le lire que de le relire, parce que beaucoup de ces chroniques, je dirais pas, il y avait certaines que j'avais oubliées, mais surtout, c'était comme si elles avaient été écrites par un autre. Et donc, c'était intéressant de lire ce qu'avait écrit cet autre. Et de le regarder, de regarder cette écriture, pour ainsi dire, de l'extérieur, depuis la vie d'après.
Et oui, parce que on découvre, alors avec le Lambeau, ce récit de votre expérience après l'attentat de Charlie Hebdo, vous êtes aujourd'hui définitivement considéré comme un écrivain. On découvre que vous faisiez des textes de fiction avant, dans cet exercice qui est un exercice quand même assez particulier, celui de la chronique. Ce sont des textes qui n'ont pas nécessairement vocation à être vrais, à être exacts, à être précis. Comment définirait-on cet exercice de la chronique, Philippe Lançon?
La chronique, donc il y a un de mes des écrivains que j'aime le plus et qui m'a inspiré beaucoup, que j'ai lu comme dès l'âge de 16-17 ans, qui était François Mauriac. Il a fait un célèbre bloc-notes qu'il a publié essentiellement dans l'Express dans les années 50 et les années 50 à partir de 53. Et en fait, il disait ça. Il disait que pour lui, son bloc-notes, c'était l'affrontement de l'individuel et de l'universel. Alors évidemment, dit comme ça, c'est assez pompeux. Et de toute façon, il est pas possible de se comparer à un écrivain de la taille de Mauriac. Mais c'est le sens du combat, en quelque sorte. C'est-à-dire, toujours, le chroniqueur, pour moi, c'est celui qui fait entendre, qui confronte sa propre existence à des événements, à des choses vues, à des choses lues. Donc, ça peut être une scène vue à la télé, ça peut être un livre qu'il a lu, et qui confronte tout ça et qui à sa propre vie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est vraiment du côté du lecteur. C'est-à-dire qu'il dit au lecteur, ma vie n'a absolument pas plus d'importance que la vôtre, mais ce dont je vais vous parler, c'est depuis ma propre vie, depuis ma propre culture, depuis ce que je suis. Voilà. Et c'est ce qui l'autorise aussi à faire ce pas de côté dont vous parliez, qui est de musarder. Le chroniqueur, à mon avis, il va pas du point A au point B. Ou alors, s'il va du point A au point B, il passe par tout un tas d'allées secondaires. Il suit, il voit passer un lapin qui traverse la route, il le suit. Vous voyez, parce que ce lapin, précisément, entre dans sa vie à ce moment-là. Au moment, dans la semaine, où il écrit la chronique. C'est ce qui lui passe dans la tête, c'est ce qu'il voit dans la rue. Voilà. Et il confronte toutes ces choses-là. Et à partir de là, il fait un texte.
Et on découvre des textes qui sont complètement inventés. Par exemple, ce texte du 12 janvier 2005, le dîner de tsunami, où vous évoquez un personnage, Gilbert, qui a disparu. Il a disparu, il rentre de vacances de Thaïlande. Il y a rencontré le tsunami, il a survécu au tsunami et il a passé en fait ce séjour, notamment à lire Houellebecq.
Oui, en fait, c'est pas ça, mais je vais pas dire la chute, parce que souvent, dans mes chroniques, il y a des retournements assez violents dans la chute. Ce qui se passe, c'est que c'était un personnage tout à fait neutre, on va dire, et inintéressant pour la plupart des gens qu'il connaissait à son travail. Et à partir du moment où il revient en disant qu'il a été témoin du tsunami, il devient intéressant pour tout le monde. On commence à l'inviter à déjeuner, à l'inviter dans des dîners, etc., parce qu'il est l'homme qui a vu l'ours. Et puis, il se passe un certain nombre de choses qui vont modifier la perception qu'on a de ce personnage jusqu'à un coup de théâtre final. Et en fait, je pense, là, dans ce cas-là, c'est vraiment là, littéralement une fiction. Je pense, je ne suis plus dans l'état où j'étais quand j'ai écrit ce texte, mais je pense simplement que je suis parti de l'idée, tiens, imaginons un homme qui a passé son été solitaire, un pauvre célibataire, vous voyez, qui n'intéresse personne, qui est voilà, et qui a passé son été à lire Houellebecq. Voilà.
Bon été.
Et qu'est-ce que deviendrait, et en l'occurrence plateforme de Houellebecq, et que deviendrait ce personnage? Je crois que c'est une chronique de 2009 ou 2010 ou
non 2005. 2005 et alors, ce qui est très ancienne. Étrange, c'est qu'on retrouve Houellebecq. Houellebecq a et son sort lié à votre écriture. Philippe Lançon, puisque on sait que la dernière conférence de rédaction de Charlie, celle où les frères Kouachi sont entrés, était une conférence où il y avait notamment une engueulade sur Houellebecq. Et puis on retrouve Houellebecq toujours sous votre plume le 17 novembre 2010, la France du Goncourt, où il est question de Houellebecq qui vient d'obtenir le prix Goncourt.
Oui, mais là, c'est pas une fiction. Il est invité sur France Inter. Et si je me souviens bien, et donc il est taquiné par Patrick Cohen à l'époque, et il répond de manière assez agressive sur le sens d'une part de la littérature, hein, c'est-à-dire que la littérature c'est pas du discours, Et d'autre part, il fait un dégagement assez drôle sur les Chinois, en expliquant que la France, de toute façon, est destinée à devenir un parc d'attractions touristiques pour les Chinois. Et voilà, donc il a cet aspect toujours à la fois provocateur, un peu menaçant, et finalement très drôle, hein. Enfin, en tout cas que moi, je trouve toujours extrêmement drôle. J'ai jamais pris Houellebecq, et je l'ai raconté d'ailleurs dans le Lambeau, pour un homme politique, vous voyez. Donc c'est un romancier, c'est un bon romancier.
Quelle différence fait-on? Parce que lorsque Soumission est paru, et d'ailleurs le regretté Bernard Maris s'engueulait à ce sujet avec ses camarades de Charlie Hebdo, eh bien justement, il était question de savoir s'il fallait prendre Soumission au premier ou à un autre degré. Philippe Lançon, votre point de vue à ce sujet?
Je ne sais pas si c'est une question de degré, mais c'est vraiment une question de lumière. Mais Soumission, pour moi, et je crois pour Bernard Maris, puisque nous en avions parlé très peu de temps avant les événements, et on était aussi les deux seuls à l'avoir lu à ce moment-là. Donc, dans Charlie.
Ce qui n'empêchait pas les gens d'en parler, d'ailleurs.
Non, bien sûr, mais les gens parlent de tout. C'est pour ça, comme vous m'interrogez sur Macron, je le connais pas. Vous voyez, c'est très agréable de parler de gens et de sujets qu'on ne connaît absolument pas.
Et ça dépend avec qui.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, Soumission, pour moi, c'est avant tout un roman. Donc je l'avais lu comme tel, j'ai jamais pensé que c'était un discours contre l'islam. D'ailleurs, si on le lit bien, le narrateur de cette histoire a l'air plutôt de penser que l'islam c'est pas si mal que ça, que la soumission c'est pas si mal, que ce qu'il faudrait c'est être finalement soumis à un ordre qui soulagerait les gens de leurs angoisses. Ce qui est d'ailleurs effectivement une des vertus possibles de la religion. Donc il y avait beaucoup d'humour là-dedans. Après, plus on connaissait les références qui étaient celles de Houellebecq dans ce livre, aussi bien à Huysmans qu'à Jean Paulhan, plus effectivement on pouvait entrer dans l'ironie propre au texte. Mais c'est la vertu des bons romanciers d'être accessible à tous, chacun selon ses moyens.
Il y a d'ailleurs, justement, dans cette peinture que vous faites et dans ces chroniques, différents patronages. Alors, vous avez cité Mauriac et Cavanna, qui est une autre plume de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui vous a apporté, Cavanna?
Cavanna, c'était vraiment quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup parce que c'est un grand artisan du style. Et je l'entends, je peux ne répondre que par une image. Évidemment, je le vois physiquement. Mais ce grand bonhomme avec ses grandes moustaches, la classe quand même. Hein. Mais avec une espèce de taille de bûcheron, mmh. Vous voyez. Et c'est vraiment l'idée, une idée à laquelle dont je rêve toujours, de quelqu'un qui vient du peuple et qui applique toute la précision et l'artisanat qu'on peut acquérir quand on est dans des milieux ouvriers, etc. Mais appliqué à l'écriture. Et à la culture. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus, vous voyez, de séparation entre d'un côté les gens qui seraient du côté de la culture et de l'intellect, on va dire, et puis de l'autre les ouvriers, les artisans, etc. Cavanna, il unit tout ça. Enfin, en tout cas, dans mon rêve, en quelque sorte. Et quand je le lis, c'est ça que je vois.
Oui, parce que Chronique de l'homme d'avant, autrement dit, ce recueil de chroniques publié aux éditions Les Échappées, Philippe Lançon, c'est aussi la chronique d'un monde disparu. Et il y a cette chronique très touchante qui est une chronique datée du 6 mai 2009 où vous parlez de l'extinction de presse. Vous faites une visite au Washington Post et vous évoquez comment ce journal sentir. Il faut que vous nous racontiez ce que vous dites dans cette chronique, Philippe Lançon.
En fait, j'étais aux États-Unis depuis quelques mois déjà. J'enseignais à l'université de Duke, en Caroline du Nord, la littérature. Donc, je n'étais plus en position de journaliste. Mais, on avait fait des visites. Enfin, c'était l'année. On avait fait des visites avec quelques amis dans des journaux à un moment où la presse américaine connaissait une très, très grande crise que toute la presse a connue, la presse papier. Hein. Et donc, on se retrouvait dans le Washington Post, guidé par un journaliste extrêmement brillant, mais qui ne doutait absolument de rien. Vous savez, un de ces grands journalistes qui a dirigé le bureau Asie. Ça me faisait toujours rêver, le bureau Asie, etc., etc. Et effectivement, dans l'endroit des hommes du président, donc à la fois le film et le livre, donc l'endroit où Et l'histoire où on a fait tomber Nixon, quoi, sur l'histoire du Watergate. Et il y avait encore les signes de tout ça. C'était vraiment... Donc, on visitait, en quelque sorte, un musée vivant de quelque chose qui était en train de disparaître, vous voyez. On le sentait, vraiment, j'étais pas le seul à le sentir. On était une dizaine, très frappante. D'autant plus, et je le raconte dans ce texte, que quelques jours après, on a visité un très bon journal de Caroline du Nord qui était en train de, sous nos yeux, de liquider les journalistes. Donc, voilà. Et c'était pas comme ici, si vous voulez. C'est clair qu'en fait, les gens ne protestaient pas. On est aux États-Unis. La grève, c'est quelque chose c'était quelque chose de peu imaginable pour eux. Et il y avait un sens, je me souviens très bien d'avoir parlé avec des journalistes qui en faisaient partie. Et c'était comme ça. C'est-à-dire, comme disait Ney Paul, le grand écrivain, « The world is what it is », le monde est ce qu'il est. Et dans ce monde, cette presse était en train d'être liquidée. À quoi ça servait de protester, de faire grève, etc. Donc évidemment, pour un Français, un journaliste français comme moi, c'était tout à fait stupéfiant, parce qu'on se dit, mais pourquoi ils protestent pas, ils font grève, ils appellent au secours leurs lecteurs, enfin, ils réagissent, quoi. Non, ils ne fonctionnaient pas comme ça. Donc ça, pour moi, ça a été aussi une des découvertes que j'ai faites à l'époque aux États-Unis sur la presse.
Alors ce texte, il a 10 ans. Depuis lors, la presse papier est encore plus en triste situation, s'il en reste d'ailleurs quelque chose. Il y a eu la migration vers le numérique, mais il y a aussi cette sensation qu'une certaine culture, une culture fondée sur l'écrit, un écrit sur page papier, je vois. Et votre exemplaire du bloc-notes de François Mauriac que vous avez devant vous, Philippe Lançon, on a l'impression que...
Épuisé, semble-t-il.
On a l'impression que cette culture-là, elle est en train de se décomposer. Qu'est-ce que vous en pensez?
De toute façon, ce qui est certain, c'est que si on prend par exemple simplement les quotidiens, des journaux, il y en a beaucoup moins qu'il n'y en a eu. Et que ceux qui restent, il y en a un qui, je crois, enfin, pour ce qu'on en sait, marche très bien, qui est Le Monde. Mais et après, il y en a d'autres qui sont nés sur, comme Mediapart, sur l'Internet. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que un organisme vivant, c'est un organisme où il y a énormément de titres qui vivent et qui donc permettent au lecteur d'aller de l'un à l'autre ou de voilà. Et ça, effectivement, c'est en train de disparaître au profit d'autre chose. Ça se recompose autrement. Je pense que c'est une période de recomposition qu'on voit à travers les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Et en fait, on ne sait absolument pas vers quoi on va. En résumé, actuellement, c'est le bordel.
Alors, il y a une chose qui va bien quand même, c'est la fiction aujourd'hui. La fiction se porte plus trop bien. Les romans, les œuvres de fiction sont aujourd'hui toujours aussi désirées par le public. Là aussi, vous qui êtes un grand lecteur, Philippe Lançon, qu'est-ce que ça vous inspire?
Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si ça va si bien que ça ou si mal, hein, je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'à titre personnel, j'ai beaucoup plus de mal depuis l'attentat à lire de la fiction. Voilà, je suis beaucoup plus intéressé, mais je l'ai toujours été, par des textes où l'écrivain porte témoignage. Voilà, c'est des choses qui me...
Par exemple, le journal de Gide.
Oui, le journal de Gide, le bloc-notes de Mauriac, les grands textes écrits par les écrivains russes dans l'Union soviétique, qui ont subi des choses.
À qui pensez-vous?
J'ai écrit un papier dans un article dans Libération sur Anna Akhmatova, qui est une très grande poétesse russe. Et qui raconte, c'est un livre qui a été écrit par une amie à elle, et elle raconte leur conversation sur une trentaine d'années, donc de 38. Elles se sont connues en 38 à Leningrad pendant les purges staliniennes. Leur mari avait déjà été exécuté, et l'une ne savait même pas qu'il était exécuté. Et jusqu'à la mort de Akhmatova en 66, donc sous Brejnev. Et ce qu'on lit, pour moi, c'est vraiment l'essence de la littérature. C'est-à-dire, non seulement ça porte témoignage d'une situation extrême, mais en même temps, ça montre aussi à quel point, à ce moment-là, en l'occurrence la poésie, mais ça pourrait être d'autres, donne une force mentale extraordinaire qui permet à ces deux femmes, et à d'autres, de tenir. Donc là, on comprend bien, très concrètement, que la littérature, c'est pas de la théorie. Que dans les moments difficiles, ça devient de la pratique. Et ça devient un véritable élément de survie.
Les chroniques, c'est aussi une forme de conversation. D'ailleurs, le titre de votre chronique dans le jacuzzi des ondes, c'est Charbe qui l'avait fixé dans le fait qu'il y a des chroniques de l'homme d'avant. C'est le titre que vous avez donné à ce recueil de chroniques. Il y a aussi le fait que le Charlie d'hier ne peut évidemment pas être comparé à celui d'aujourd'hui, Philippe Lançon.
Oui, ben, si on continue de manière un peu sarcastique à la Charlie, la métaphore en stalinienne, Charlie, le 7 janvier, a vécu une sévère purge. Vous savez, Staline, quand il purgeait, quand il n'y a pas de démocratie, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on purge d'un coup une génération, donc on la liquide, et puis on en met une autre à la place. Là, c'est les événements. On a été littéralement purgé par le sang. Et donc, effectivement, la vie est quand même plus forte que tout. C'est-à-dire, des jeunes, des nouveaux sont arrivés, en particulier beaucoup de nouveaux dessinateurs qui ont du talent et qui s'installent progressivement dans ces pages et les font vivre. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et Charlie, je ne sais pas si c'est... un journal de loser, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un journal de gens qui connaissent le prix de la vie et qui se bat pour vivre quotidiennement, même s'il continue à être énormément attaqué.
C'est aussi assez étrange de se dire que des journalistes peuvent légitimement avoir peur en France, Philippe Lançon.
Ah oui, mais oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Enfin, c'est là aussi le monde est ce qu'il est. C'est-à-dire les menaces contre Charlie, que je sache, elles continuent à lui arriver, à lui parvenir.
Et là aussi, les questions. Vous n'aimiez pas cette expression tout à l'heure, mais la différence entre le premier degré et les autres degrés n'est pas toujours comprise, je crois.
Ah bah, c'est-à-dire que Alors là, je crois que mes chroniques en sont aussi le symptôme. Mais ce qui caractérise les caricatures en particulier de dessin, c'est la multiplication des degrés, puisqu'elle confronte toujours un plan à un autre. C'est-à-dire, par exemple, là, Charlie a été attaqué la semaine dernière, je crois, pour une caricature à propos des soldats morts au Mali. Et on a dit, ils attaquent les soldats morts au Mali, ils se moquent des soldats, des pauvres morts, mais pas du tout. Parce que ils confrontaient ces morts à la campagne de publicité de recrutement de l'armée.
C'est donc le dessin signé Biche.
Voilà, c'est un dessin signé Biche, et ça, c'est l'essence de la caricature. On peut ne pas aimer ça, bien sûr, et ne pas le lire et trouver ça, mais la caricature, elle confronte toujours des plans différents, et donc, effectivement, elle est toujours naturellement au second degré. Voilà. Il semblerait qu'on vive dans un monde où beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre le second degré.
Philippe Lançon, chronique de l'homme d'avant, c'est donc ce recueil de chroniques qui est publié aux éditions Les Échappées. Alors je vous présente les trois chroniqueurs, parce que ici il y a trois chroniqueurs qui chaque jour nous donnent leur vision du monde. Hervé Gardette, Mathilde Serrel et Aurélien Bélanger, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Hervé, de quoi allez-vous nous parler?
De chansons sans carbone.
Mathilde Serrel.
De police anachronique.
Et enfin Aurélien Bélanger.
Tête ronde, des lunettes carrées, quand le philosophe est aussi visagiste.
Allez, dans quelques instants, vous restez avec nous, Philippe Lançon.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque samedi sur France Culture, entrons dans une œuvre, une vie, Christine Bernard.
Lorsqu'elle chantait, elle faisait un tel effet que des gens explosaient en larmes, bouleversés par sa voix. Elle, c'est Amy Winehouse. Son timbre de voix particulier, son look des années 50, lui confère le statut d'icône musicale des années 2000. Une voix de jazz absolument incomparable, rare et moderne, mais néanmoins puissamment nostalgique.
Il était une voix, Amy Winehouse, une vie, une œuvre, ce samedi à 15h et sur franceculture.fr.
8h45 sur France Culture, Hervé Gardette, votre transition, le monde de la musique aime les grandes causes, le réchauffement climatique ne pouvait pas y échapper, et nous non plus.
Eh oui, souvenez-vous Guillaume, nous dansions...
C'est la mauvaise nouvelle Mathilde Serrel.
Souvenez-vous Guillaume, nous dansions là-dessus en 1987.
Non, on ne dansait pas, non.
Moi, voilà ce qui s'appelle un début totalement raté de chronique. Non, essayons de rattraper le coup. Beds Are Burning, vous reconnaissez. Midnight Oil, chanson consacrée à la restitution des terres aux aborigènes, tube mondial porteur d'un message écologique fort. Le chanteur du groupe Peter Garrett deviendra par la suite député, puis ministre dans son pays, l'Australie. Le monde de la musique s'intéresse depuis longtemps au sort de la planète, avec plus ou moins de réussite, les meilleures intentions ne produisant pas toujours les meilleures chansons. Pour un petit chef-d'œuvre de subtilité comme « Je suis un homme » de Zazie, on compte aussi pas mal d'artillerie lourde. Écoutons par exemple, attention, rime riche, le premier couplet de « La terre meurt » de Charles Aznavour. « Les océans sont des poubelles, les fonds de terre sont souillés, les Tchernobyl en ribambelle voient naître des fœtus mordés. » Alors cela dit, comme le font justement remarquer les chanteurs et musiciens signataires de la Tribune publiée dans Le Monde il y a une semaine, ce n'est pas par de belles chansons ou de belles paroles que nous éviterons le naufrage. Vincent Delerme, Calogero, Mathieu Chédid, Yaël Naïm, Thomas Dutronc, Soprano, ils sont une ribambelle, comme dirait Aznavour, à demander à leurs fans de modifier leur façon de vivre, à accumuler les petits geste pour sauver la planète. Lors des dernières victoires de la musique, le groupe Chaka Ponk, lui aussi signataire, avait ouvert la brèche.
Il y a des gens formidables, des gens magnifiques qui ont dressé des listes de comportements. Ces gens formidables, ce sont des professionnels de la fin du monde. Et si nous adoptions tous ces comportements au quotidien et que nous les partagions, nous pourrions, une bonne fois pour toutes, en finir avec « The End of the World ».
At the end of the world, comme quoi les chanteurs, c'est fait pour chanter. Le groupe Coldplay vient de pousser un peu plus loin la logique en décidant de reporter la tournée qui devait accompagner la sortie de son dernier album. Le chanteur Chris Martin s'en explique à la BBC. Nous allons prendre notre temps pour que notre tournée soit respectueuse de l'environnement. Alors passons sur les méchantes critiques qui disent que Coldplay aurait surtout dû prendre son temps avant de sortir un nouvel album. L'objectif, c'est la neutralité carbone, véritable gageure pour un groupe habitué à faire la tournée des stades. Il y a 10 ans, Radiohead avait ouvert la voie, démontrant qu'on peut être en avance sur son temps aussi bien musicalement que politiquement. Le groupe britannique mesure l'impact écologique de ses concerts et tente de le limiter en utilisant des éclairages plus économes, des matériaux recyclés et en privilégiant des lieux facilement accessibles en transport en commun ou à vélo. Des tournées bas carbone et éco-responsables, c'est d'ailleurs le projet français en cours de financement de Green Your Touring, une boîte à outils en open source pour aider les musiciens et les tourneurs à réduire leur impact carbone. Démarche essentielle pour une industrie qui a trouvé dans la musique live les conditions de sa survie. Alors depuis que je tiens cette chronique, j'ai reçu plusieurs messages d'auditeurs me signalant des projets musicaux autour de l'environnement. Vogel, une sympathique rengaine à l'accordéon composée par des grenoblois pour dénoncer l'immobilisme face à l'urgence climatique. The House We Live In, la maison où nous vivons, un projet ambitieux qui met en musique et en images sur scène les propos des grandes figures de l'écologie mondiale, projet qui fait actuellement l'objet d'une campagne de financement participatif. Mais parce que quelqu'un me faisait remarquer hier dans les couloirs de France Culture que les chanteurs écolos étaient tristes comme un jour sans métro, prouvons-lui le contraire avec cette chanson dans laquelle vous vous reconnaîtrez peut-être Guillaume.
Il ne triait les déchets qu'à moitié, et arrosait le gazon sans se poser de questions. Était contre le nucléaire, mais zappait d'éteindre les lumières. Était anti-OGM, mais on en mangeait quand même. Il disait les marées noires, y en a marre, y en a marre, mais ne voulait pas savoir ce qu'il mettait dans le réservoir. Mon père m'avait dit pourtant, j'arrête le Roundup au printemps, je vais voter pour les Verts, m'a dit à Noël ma mère, Noël ma mère.
C'est une dream riche. Ça plaît beaucoup à Mathilde Zerel. Hein.
Ça s'appelle Les Goguettes. Voilà, Les Goguettes. Vous aurez reconnu l'air de Marie-Paul Bell. Je ne suis pas parisienne. Happy Collapse, Les Goguettes. Tous les liens et tous les artistes et les morceaux que j'ai cités sont évidemment en lien sur la page de la chronique. Guillaume
Une
Bernard.
Réaction, Philippe Lançon.
Ben, c'est marrant parce que quand j'ai relu mes chroniques là pour mon livre, je me suis aperçu que par exemple en 2005, j'en avais écrit une qui s'appelle La fin des avions et une autre un an plus tard qui concernait la disparition d'un lac au Chili pour des raisons. Et en fait, il y en avait d'autres aussi qui n'ont pas été forcément retenues. Et évidemment, comme je suis pas spécialement ni devin, ni ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a déjà presque 15 ans, c'était dans l'air. Puisque le chroniqueur, c'est ça qu'il fait, il capte l'air du temps. Et donc, on s'aperçoit que tout ce qu'on entend là maintenant, qui devient effectivement, comme vous le disiez bien, montriez bien, des slogans et des manières de se raccrocher au train pour tout un tas de raisons compréhensibles, ces choses-là, on les savait en fait. depuis déjà 15, 20 et probablement beaucoup plus de temps.
Le thème de la chronique de Mathilde Serrel, vous y avez vous aussi consacré des chroniques, Philippe Lançon. Mathilde, votre théorie, elle porte sur la politisation de la culture et ce qu'elle nous fait.
Oui, dans les années 60, tout était politique, de la façon de filmer à celle d'aller au théâtre ou même de commander une bière. Et puis après des décennies de vie culturelle marquées parfois par l'engagement, mais libérées d'une lecture systématiquement politique, nous y voilà replongés. Je ne dresserai pas ici la liste des cas qui viennent étayer ce sentiment. Il vous suffit de vous tenir, même passivement informé, pour constater que les controverses qui touchent les œuvres de l'esprit et de l'imagination sont omniprésente. Mais ma théorie, c'est que soustraire les œuvres à ce nouveau regard n'est pas une solution. Que cela nous plaise ou non, cette époque qui est la nôtre ne fera pas autrement. Bien sûr, quand l'histoire est passée par là et qu'elle a trié, c'est plus simple. Comment fait-on dans un présent qui réouvre, lui, toutes les alternatives, y compris en convoquant sans cesse le passé à la barre? Spontanément, je n'ai pas envie de me poser des questions telles que « Faut-il arrêter de regarder Gauguin ?» pour reprendre un édito du New York Times à propos de l'exposition du peintre post-impressionniste à Londres. Ou encore « Faut-il cesser d'écouter Michael Jackson ?» Ou encore « Faut-il mettre des avertissements avant les classiques de Disney qui peuvent contenir, je cite, « des représentations culturelles dépassées ?» Il y a certes un anachronisme constant aujourd'hui qui regarde des œuvres contextuelles depuis le point d'évolution que nous traversons et leur demande des comptes. Mais c'est bien parce que la forme du temps, qui n'est plus linéaire dans sa perception, a changé, que cette colloque passé-présent opère. Peut-on dès lors se dérober à cette question de la mise à jour? Même si de toute évidence, dans la précipitation et la fureur, elle semble impossible. D'autant que la question est très mal posée à partir du moment où elle consiste à se demander s'il faut évacuer ces œuvres de notre regard, comme si la suppression était une réponse. Pour autant, on aurait tort de refuser par principe toute réévaluation anachronique, tant il y a à ouvrir, à déplier, à complexifier, à renseigner, en laissant ensuite à chaque lecteur, regardeur, spectateur, la liberté de se faire son avis. Je sais, c'est inconfortable, c'est fatigant, voire inquiétant si de ces débats devaient surgir de nouvelles formes aseptisées. Pourtant, j'ai aussi envie de vivre ces interrogations comme une chance de repenser, pourquoi pas contre soi, et de voir se dessiner de nouveaux équilibres. Quant à la politisation des œuvres du présent créatif et la politisation de gré ou de force de leurs auteurs, parfois au travers d'événements passés, voire passés sous silence, chacun peut la refuser. Comme l'ancien critique d'art du Guardian, Waldemar Januszak, qui rappelle notamment qu'on ne se confronte pas à l'art pour devenir de meilleurs citoyens. Mais ce qui devient soudain audible ou visible dans l'espace public ouvre une discussion conflictuelle, peu rhétorique souvent, excessive, littérale et manichéenne certainement. Pourtant, celle-ci fait de la culture à nouveau un espace où se repensent les enjeux de pouvoir. On peut s'en méfier ou s'en extraire, rien n'y changera, autant se débrouiller le plus sincèrement avec.
Merci Mathilde Serrel. Une réaction, Philippe Lançon? Je songeais notamment à cette chronique que vous consacrez dans Chronique de l'homme d'avant à Polanski, avant l'affaire qui le concerne aujourd'hui, bien entendu, puisque ce sont des chroniques qui ont une dizaine d'années.
Oui, ben, je vais juste, effectivement, comme vous le disiez bien, c'est le problème, c'est difficile pour l'individu qui se retrouve confronté à tout un tas d'injonctions politiques. D'exister et de comprendre et de vivre les œuvres le plus naturellement et spontanément possible pour aller vers plus de liberté en somme. Et donc je voudrais juste vous citer une phrase de Mauriac justement hors contexte mais qui s'y raccroche assez bien. Nous devons accepter la vérité telle qu'elle est, vue du dehors, couverte de mouches, mais à condition de la redécouvrir au-dedans de nous, là où les mouches ne pénètrent pas. Et donc, l'art dont vous parliez, peut-être que c'est précisément la possibilité qui nous est donnée de retourner vers l'intérieur, là où les mouches ne pénètrent pas.
Et moi, je vais vous lire du Lançon. Pour Charlotte, Polanski est deux fois criminel, comme violeur d'une mineure et comme fuyard. La seconde cause n'est pas moins pire que la première. Il faut affronter devant les juges, comme devant sa conscience, les conséquences de ses actes. Charlotte est libérale, comme on dit ici. C'est une forme de vertu. On est en Amérique. Et c'est une chronique du 31 mars 2010, Philippe Lançon. « 8h55, la conclusion d'Aurélien Bélanger. »
J'entretiens un rapport paranoïaque à Michel Onfray. À la sortie de mon premier roman, Invité un peu partout, j'avais découvert en quelques semaines que j'adorais parler en public. Je me tenais jusque-là pour une personne excessivement timide. Mes premières prises de parole en public avaient en effet été catastrophiques. Ainsi, de la fois où dans la librairie où je travaillais, et alors que Charles Dantzig avait expliqué en esthète que le beau et le vrai étaient incommensurables, c'était insupportable pour l'étudiant en métaphysique, pour le petit platonicien que j'étais alors, j'avais vivement protesté depuis la caisse où je me tenais en retrait, et je me vois encore bafouiller et rougir de mon audace juvénile. Je devais, quelques années plus tard, intervenir sur Europe 1 pour évoquer Houellebecq, à qui je venais de consacrer mon premier livre. Je n'avais jamais imaginé, attendant mon intervention, qu'il soit possible de boire autant d'eau et d'avoir en même temps la bouche aussi sèche. Je ne me rappelle encore que de l'atroce sensation et n'ai aucun souvenir de ce que j'avais bien pu réussir à articuler. Je me souviendrai en revanche toujours du visage de cette femme, la mère d'un de mes camarades de collège, la bouche paralysée par le trac à une représentation amateur d'une opérette d'Offenbach, car j'ai longtemps cru que telle serait un jour mon destin, et j'admirais, devant l'heure de vérité, s'était articulé de ministre capable de répondre avec une précision d'ébéniste à des questions à tiroir sur le chômage de masse. La publication de mon premier roman a levé cette malédiction, au point qu'à ma 20e intervention publique, je n'étais pas certain de ne pas me trouver, comme ma confrère Aurélie Filippetti, directement ministrable. J'avais découvert que j'adorais, plus que tout, m'exprimer en public et donner mon avis sur tout, en commençant prudemment par le domaine abordé pour mieux finir par m'exprimer, du ton de la confidence, sur le destin de l'univers lui-même. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, et même quand j'étais seul sur scène, surtout si j'étais seul, c'était tout un talk show qui commençait pour moi. Le goût de la parole publique, c'est le châtiment merveilleusement pervers que notre société réserve parfois aux grands timides. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Michel Onfray, mon animal totem. Je le connaissais un peu, de loin en loin. Je l'avais ainsi découvert sur cette antenne, dans les années 90, à l'époque où il tentait de réhabiliter Diogène et le cynisme. Et je m'étais étonné que sur une heure d'émission, il avait passé un bon tiers à se plaindre qu'on ne l'invite jamais. Rien n'avait changé sur ce point quand nous nous sommes rencontrés sur la scène d'un théâtre de Bordeaux, 20 ans plus tard, en compagnie de tout un panel d'intellectuels. Forcé enfin d'admettre qu'il avait finalement plutôt bien réussi, ancien libraire, je pouvais l'attester, j'avais vendu par exemple son livre Contre Freud par centaines à des psychanalystes courroucés, il avait imaginé une improbable stratégie pour râler encore, se rajeunissant de 30 ans et tentant, c'était la scénette qu'il improvisait devant nous, de revendre Le ventre des philosophes, son premier livre, à son éditeur, lequel immanquablement refusait. La chance qu'il avait su saisir en 1989 s'était ainsi évanouie en 2016. CQFD, l'édition était devenue méchante, libérale, maastrichtienne et commettait l'erreur, dans ce petit précis d'histoire intellectuelle contrefactuelle, de le décourager au berceau, lui, l'un des plus gros vendeurs de livres de philosophie de tous les temps, le Bruce Springsteen de la philosophie française. C'était quand même un peu délirant, même Rousseau aurait été choqué, je crois, par ce récit paranoïaque. Et pourtant, j'ai pour Michel Onfray un respect authentique. Ces 30 ou 40 000 signes qu'il se targue d'écrire tous les jours, ces livres qu'il dévore, même si c'est pour mieux dévorer leur auteur, forcément coupable à ses yeux, s'il a connu un temps la gloire médiatique, cela m'impressionne. Le voir en loge, sinon en toge, dans un documentaire, vider un litre et demi de cristalline en relisant ses notes avant de monter sur scène, cela m'a ému. Mon Michel Onfray intérieur existe et il se réveille à chaque fois que je parle en public depuis ce jour prophétique où, dans une librairie de Montmartre, presque à la verticale infinie du puits de la station Abbesse, une pitié m'annonça, alors que je venais d'exposer l'intrigue métaphysique de mon premier roman, que je lui avais fait penser au jeune Michel Onfray.
Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Rien sur Michel Onfray dans le Philippe Lançon que je tiens entre les mains, chronique de l'homme d'avant.
Non mais figurez-vous que je l'ai interviewé, très jeune journaliste, il était venu chez moi avec André Comte-Sponville pour parler des cyniques, les cyniques grecs. C'était son quasiment son premier livre ou un de ses premiers livres. Et je venais de déménager, j'habitais dans une rue où il y avait des prostituées partout. Et régulièrement, donc on parlait de philosophie sur une table avec deux tréteaux parce qu'il n'y avait rien dans l'appartement. Et ils allaient à la fenêtre, l'un et l'autre, pour regarder le spectacle qui était beaucoup plus dans la rue qu'à l'intérieur de l'appartement. Voilà.
Chronique de l'homme d'avant, avec des merveilleuses chroniques de Philippe Lançon. C'est aux éditions Les Échappées. Merci Philippe Lançon d'avoir été en notre compagnie ce matin. Merci à toute l'équipe des matins. Pauline Chanu, Elodie Piel, Mayouen Guizhou, Léa Capuano, Louison Carouet, David Jacoubovias, Nicolas Paumé, M. Le Chili et Cindy Le Grumelec.